Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On pourrait qualifier l'émission qui vient de boat movie, comme il est des films qui sont des road movie. Un long et lent travelling, la caméra, le micro étant bien calé sur l'escaut. Bateau voguant sur la Seine à partir de Paris, laquelle Seine, gagnant l'océan comme chacun sait, se mêle un beau jour aux eaux salées. Avant cela, on embarque Pierre Macorlan. Peut-être reste-t-il à terre, sans doute est-il interviewé et bien au sec chez lui, mais peu importe. Oui, la Seine pour commencer, depuis Paris, mais bientôt le grand large, les ports du Nord, la pluie, les canaux et les marins. La vie qui ressemble à littérature. Nous sommes 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les ports ont subi tant de dégâts. Les quais des brumes, du port de Paris à ceux de Rotterdam et de Londres, par Maurice Sévenot. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 15 décembre 1948.
Les quais des brumes, du port de Paris à ceux de Rotterdam et de Londres, une émission de Maurice Sévenot avec Pierre Macorlan et Senef.
Vous avez un tout petit peu de temps devant vous.
Une heure, monsieur ?
Mais bien sûr, vous pouvez venir avec votre femme. Entendu, allons-y, je vous emmène. Et oui, nous partons du quai d'Austerlitz. Mais si, vous savez bien, toutes les semaines, un bateau passe devant Notre-Dame, sous le pont de l'Alma, et arrive ainsi tout seul à Rotterdam, Londres ou Manchester. Transport de marchandises sans transbordement, ce service, peu connu du grand public, je l'avoue, va nous permettre de faire un petit voyage. Restez dans votre fauteuil. Comment ? Vous êtes déjà couché, madame, à cause de vos rhumatismes ? Eh oui, c'est ce temps brumeux, qu'est-ce que vous... j'ai bonne mine avec mon titre. Enfin, si je peux vous aider à supporter vos maux en silence, eh bien tant mieux. On embarque, départ dans 2 minutes. Permettez-moi tout de même de vous présenter nos principaux compagnons de route. L'escaut, 550 tonneaux, noir et rouge, cheminée noire, cerclée de blanc. Le capitaine Cassinga, le type même du bourlingueur hollandais, ventru, rougeau, affable, buveur de café et de genièvre, toujours gai. Pendant la guerre, transport de troupes et de munitions entre l'Angleterre, l'Écosse et Terre-Neuve. 2 fois coulé, 2 fois blessé et sauvé par miracle. Le capitaine Cassinga en manche de chemise rayée, pantalon noir et bretelles.
C'est pas la même. Tu as aussi pour ma femme un costume.
Notre pilote, 25 ans de service, petit, tanné, et paraissant 35 ans alors qu'il en a 50.
55 mètres de long sur 8 mètres de large. Ce sont les dimensions de notre bateau. Oui, quelque chose près. Comme longueur, il y a à peu près 1 mètre de différence, de plus long, mais comme largeur, c'est exactement pareil, c'est 8 mètres. Sur...
Je m'excuse pour l'équipage, mais il est trop occupé. Alors, prêt ? On appareille. Moi, je vous ai présenté tout le monde, mais je n'ai pas encore l'honneur de connaître officiellement le capitaine Cassinga. Par conséquent, Monsieur Liebengut, le directeur de la compagnie Muller, va nous présenter en votre nom au capitaine Cassinga.
Alors, Monsieur Sévenot, nous voici à bord de l'escaut et je tiens à vous présenter le capitaine Cassinga, le capitaine de ce beau bateau sur lequel vous allez faire le voyage jusqu'à Hollande. Nous sommes très heureux, très honorés même, que vous ayez choisi notre bateau, le bateau de la Maison Muller, pour faire ce voyage et ce radio-reportage. Captain Kreisinger, et salut pour Menersevno, pour la radio Umbro, pour la France Radio Umbro, et Mener gauche, c'est-à-dire le technicien. Hier, à Dichan, mais tu mènes à Holland, ça va être un très bon reportage, hoop ik. Et je hope que tu, mais hier, les armes, un bon reste. D'ailleurs, inutile de continuer à parler hollandais, le capitaine Kreisinger parle parfaitement bien français parce qu'il vient à Paris depuis de nombreuses années.
Je suis très heureux, capitaine, de faire votre connaissance.
Oui, merci, monsieur.
J'espère qu'on ne vous ennuiera pas trop, qu'on ne vous gênera pas dans vos manœuvres.
Oh oui.
Et vous êtes venu souvent à Paris déjà, capitaine?
Oh oui, déjà plus de 20 ans, monsieur.
Eh bien, je vais vous laisser travailler maintenant. Nous allons pouvoir assister au départ puisque le départ est très proche. Et je vais demander quelques mots au pilote qui va nous dire comment va se passer exactement notre départ du quai d'Austerlitz.
Ben, nous mettons une amarre derrière, comme ce bateau est encore assez matériel, pour faire le virage du bateau. Et après, si la route est libre, nous continuons en prenant le pont d'Austerlitz en premier. Après, nous avons la Tournelle. Nous passons en face de Notre-Dame, quoi. Et après, nous continuons notre route comme ça jusqu'à Suresnes, en prenant des grandes précautions dans les ponts de Paris, car le bateau est assez matériel. Et d'être là, nous arrivons à Suresnes.
Et vous venez avec nous jusqu'à Rouen?
Et oui, nous continuons la route jusqu'à Rouen.
Est-ce qu'il y a un décret, une loi qui oblige les bateaux qui vont sur la Seine et en rivière en général, à avoir un pilote à bord?
Toujours, oui. C'est réglementaire.
Is die springvast achter? Springvast. Let go voor.
Ah là là là. Un novembre à 7h du matin, il fait pas chaud. Ça jette un froid. Heureusement qu'il y a le café hollandais accompagné de genièvre qui est là pour parer aux mauvaises congestions. Là, voilà qu'on retire les cheminées, les mâts. Le bateau perd sa virilité, mais il passera sous tous les ponts de Paris. La manœuvre commence. Un remous, un lent glissement sur bâbord. Allez, en route! Et je suis certain qu'avec le voyage qui commence, une quantité de surprises nous attendent. Notre-Dame, nef majestueuse. Eh ben oui, c'est une surprise. Cette formule usée qu'apprennent tous les gosses et puis qui n'y croient pas, je vous jure qu'elle a toute sa valeur, là. On n'entend pas les voitures, ni les moteurs, ni les klaxons. Ah, c'est un beau boulevard qu'on ne connaît pas assez. Les rivières sont des chemins qui marchent. C'est Pascal qui a dit ça, je crois. Laissons-nous donc descendre. Voilà les Invalides, qu'on va quitter. Alma et son zouave, triste de ne pas être de la fête. Allez, viens, viens, on t'emmène. On va s'arrêter une minute au quai de New York. On va embarquer Pierre Macorlan sur notre esquif. Le voilà tassé, sa figure ronde. Et basané, toujours jeune, vêtu d'un trench coat, le col entouré d'un foulard de couleurs vives, le regard perçant qui a su si bien détailler Paris.
En ce moment que vous m'entraînez dans la trace de vos pas, Sévenot, je ne peux me défendre d'un peu de mélancolie, car ce voyage, qui pour vous est riche en impressions neuves, me conduit vers cette forme de l'avenir que l'on appelle le passé chez les hommes d'un certain âge. On peut dire que Paris est un port d'eau mêlée, l'eau salée et l'eau douce, l'eau de la mer du Nord et celle des canaux et des fleuves qui accèdent aux quais de Dunkerque, du Havre, de Londres, d'Anvers, de Rotterdam et d'Amsterdam. Avant de pénétrer un peu dans ces ports qui, pour moi, évoquent la pluie, une pluie parfaitement conforme au désir d'obtenir des décors féconds, c'est-à-dire riches en éléments littéraires, j'avais vécu 2 ans au bord de la Seine, à côté des gazomètres, dont Guillaume Apollinaire disait qu'il constituait pour mes yeux un paysage minéral quelque peu enchanteur. Guillaume Apollinaire habitait en ce temps-là au fond d'un jardin de la rue La Fontaine, ce qui explique son indulgence pour ces gazomètres dont je bénéficiais. On sent bien qu'il n'habitait pas là. Quant à moi, je descendais chaque matin promener mon fox à poil ras dans l'île des Cygnes, tristement meublé de quelques arbres, de quelques pêcheurs dont 2 ou 3 habitaient dans mon immeuble. Amarrés le long de l'île, les péniches du Nord se reposaient et se chauffaient au soleil. Les blondes marinières des Flandres lavaient leur linge à grand bruit de battoir devant leurs coquettes petites cabines peintes en vert et blanc. Elles soignaient également des fleurs en pot et gourmandaient de tout jeunes enfants joufflus aux cheveux couleur de paille. presque toutes ces belles langues, possédait un petit chien noir à poils courts que l'on appelle chez les mariniers Skipperkirk, ou le petit batelier. Skipperkirk est un excellent matelot et un gardien méticuleux. Il connaît toutes les habitudes du bord et ne laisse pas monter n'importe qui sur la planche qui sert de passerelle. Skipperkirk est d'un abord assez rogneur. Son poil se hérisse facilement sur l'arête de son dos. Mais quand il vous connaît, c'est un bon petit camarade qui sait ce que signifie le mot amitié.
Voudriez-vous nous conter un autre souvenir ?
Le soir, en fumant ma cigarette, j'entendais à bord d'une péniche, tantôt la Marie-Louise ou encore la Hendrik Meulen, un accordéon qui jouait les mélodies populaires de l'époque entre le Paris des brumes et la joie colorée de Volendam. Mais c'est dans les modestes bistrots, les estaminets de bonne qualité, ceux du quai de la Tournelle, que j'aimais à retrouver les équipages vêtus de gros draps bleu marine. Georges Siménon, ce très grand écrivain, a su parfaitement faire revivre cette société, celle des mariniers du Nord. Bien des fois, et cependant j'en eus l'occasion, il m'eût été agréable de suivre les canaux du Nord et de l'Est dans la compagnie de ces très braves gens. Mais la roue a tourné dans un autre sens. Je n'ai pas suivi la mélancolie Calédo quand j'ai voulu vivre un peu à Bruges et dans quelques ports de la Belgique et de la Hollande.
Voilà embarqué sur un bateau, vous ne l'avez même pas regardé. Ni sa coque, ni son pont passé au minimum, ni ses cales chargées à vomir de marchandises de toutes sortes, protégées par des bâches brunes. La cabine du capitaine est décorée avec des tapis cloués, des canapés, des fauteuils et une radio. Et elle se trouve au-dessous du poste de pilotage où nous sommes. La roue du gouvernail, les tables pour les cartes lorsque nous serons en mer et le transmetteur d'ordre. Derrière nous, sous le deck arrière, le carré et les chambres de l'équipage. 8 hommes en temps ordinaire. C'est le plus gros bateau venant jusqu'à Paris, 250 tonneaux. Nous allons maintenant rapidement traverser les faubourgs qui s'éveillent, Suresnes et sa fête, elle encore endormie, le Valois et ses usines, Saint-Denis et ses rois, et voici une campagne intimidée par la ville proche qui tente une très légère apparition, c'est Bougival.
Ici, nous avons les écluses de Bougival, et nous allons rentrer dans un instant.
Je dois dire à nos auditeurs qu'en attendant le passage de l'écluse, l'équipage s'occupe d'une façon ou d'une autre car il ne reste jamais inactif et en ce moment il est en train de nettoyer le pont. Vous entendez très certainement le bruit des jets d'eau et des balais. Je vais demander au pilote de bien vouloir nous expliquer comment va se passer notre première écluse.
La première écluse, nous sommes obligés de rentrer bien doucement car l'Esco, que je pilote, est un très grand bateau. Et cette écluse fait 55 mètres de long. Sur 8 mètres de large, c'est à peu près la largeur et la longueur du bateau, alors il faut prendre des grandes précautions.
Nous allons emprunter la petite écluse.
La petite écluse, oui.
Je dois dire à nos auditeurs que sur la grande écluse, de l'autre côté, il y a un nombre incalculable de péniches. Je pense qu'il peut y entrer plus de 25 ou 30 péniches à la fois.
Oui, c'est ça.
Je voudrais vous poser maintenant, puisque j'en ai l'occasion, deux ou trois petites questions techniques de navigation en rivière. Lorsque nous passons un pont, est-ce que vous êtes obligé de passer, vous, à gauche ou à droite ?
Tout cela dépend des circonstances de navigation. Des fois, le règlement nous oblige à prendre une arche de droite, des fois une arche de gauche. Ce sont des règlements particuliers.
De toute façon, au-dessus des ponts, il y a des disques comme on en voit dans les rues de Paris, sens interdit, rouge, ou bien alors blanc, sens autorisé, au contraire.
Oui, c'est exact.
Je vous disais tout à l'heure que l'équipage comprenait généralement 8 hommes, mais peu après le départ, le capitaine est amené à me faire de graves déclarations. Il dit, voilà, monsieur Sévenot, je suis très ennuyé, mais nous n'avons pas de cuisinier à bord. Comment on n'a pas de cuisinier? Il dit non. Le nôtre a connu une femme à Paris et il y est resté. Et comme c'est un bon boulanger, c'est un bon cuisinier, mais c'est surtout un bon boulanger, il a trouvé une situation et il est resté à Paris. Alors à un moment, on a craint qu'on ne puisse faire la cuisine, mais j'ai demandé au second mécanicien de s'en occuper, et avec tout l'équipage, il va réaliser la chose, et nous pourrons quand même manger. Eh bien, je m'aperçois qu'on mange quand même très bien, mais je voudrais vous signaler la façon très spéciale qu'ont les Hollandais de préparer le beefsteak. On nous sert le petit déjeuner le matin à 8h, et dès que le service est terminé, le cuisinier, c'est-à-dire le second mécanicien, met sur le feu une grande marmite avec beaucoup de graisse. Et quand la graisse est chaude, il met dedans ses beefsteaks qui cuisent au moins 3 heures. Alors quand on nous les sert, ils sont tout à fait en charpie, mais ils sont quand même très bons, ce qui n'empêche que le cuisinier est tout de même resté à Paris.
Pour une fille qu'il aimait, pour une fille qui chantait, bafoué son rêve, il allait suivant son rêve, abominable. On ne peut rien contre l'amour, et tant pis s'il n'est pas toujours recommandable. Sans une plainte, il a souffert, il menait une vie en paix. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la et qui riait de sa victoire. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Ah, quelle histoire.
Ah, aujourd'hui, c'est le parcours obstacle. Toutes les écluses nous attendent. En tant que bateau de mer, nous avons la priorité sur les péniches et autres embarcations. Nous entrons, on vide et on repart. C'est mieux que l'ascenseur le plus moderne et en tout cas plus impressionnant. Nous passons donc d'abord à Saint-Germain, puis le long du champ de course, deux maisons. Nous ne gagnerons pas le 1500 plats, mais nous ne perdrons pas non plus au Paris-Mutter. Puis c'est Conflans-Sainte-Honorine, la ville des mariniers avec ses kilomètres de péniches, son église, son monument aux morts et son école flottante. C'est ici que sont célébrés les mariages, que les gosses résident en temps ordinaire, tandis que les parents vont et viennent sur les fleuves et les canaux de France et de l'étranger. Il faudrait des heures pour visiter cette curieuse cité flottante et se familiariser avec ses coutumes. Nous passons ensuite à Poissy, qui vit Louis IX sur les fonds baptismaux, Vilaine qui de nos jours voit les nudistes sur ses plages à la mode, Médan, la patrie de Zola, dont il s'inspira en partie pour écrire La Terre, Mantes la Jolie, malheureusement défigurée, et Moisson, et qui ne retentit plus des toujours près du Jamboree. Nous nous acheminons ainsi tranquillement vers Bonnières, le paradis des pêcheurs, et Port-Vinet.
On arrive à la fin de notre première journée. Dans la cabine de pilotage, le pilote est en train d'accoster le navire. Nous allons lui demander exactement où nous nous trouvons.
Nous nous trouvons à l'amont des écluses de Port-Hulé. Il commence à faire très noir.
On a allumé les feux de position d'ailleurs. Ah,
oui, les feux de position.
À bâbord et à tribord, pardon.
Alors nous accostons, nous mettons les amarres à terre pour redémarrer demain matin vers 6h30, mais je crois que demain matin nous aurons de la brume.
Bah, nous n'allons pas nous coucher si tôt, une échelle est vite posée pour aller à terre. Nous faisons quelques pas dans l'herbe mouillée, nous traversons la voie ferrée qui se trouve tout près de notre point d'amarrage. Nous traversons également la route, les trois voies de communication se trouvant ainsi réunies dans un périmètre très restreint, dans un espace restreint. Et nous entrons dans un petit bistrot de mariniers, bistrot enfumé où on ne voit que des hommes et où un pick-up débit de sa rengaine. Nous l'écoutons et nous rappelons quelques souvenirs avec Roger, notre chef pilote. Et oui, des souvenirs, malgré leur vieille rente, les bateliers, les mariniers en ont. L'esprit de corps existe chez eux, la Seine, c'est quelque chose comme une maison, comme un quartier. Pour eux, ils se connaissent, ils se voient tous les 8 jours ou tous les 15 jours, ceux qui font le même parcours. Et puis, on voit aussi les éclusiers, les chefs éclusiers que l'on rencontre périodiquement. C'est ainsi que je demande à Roger de me parler, celui de l'écluse de Port-Villet où nous nous trouvons actuellement.
Monsieur l'éclusier, oui, je le connais, je l'ai plutôt connu parce que... Et si on est en train de parler, je vais vous expliquer l'histoire qui m'est arrivée, ce pauvre garçon. Je montais avec l'Esco il y a à peu près 3 mois, par un dimanche après-midi. Alors, les chefs éclusiers étaient sur l'écluse. Nous causons sur les autres. Notre conversation vient justement sur le chemin de fer, comme c'est le chemin de fer proche de sa maison. Alors, il était très content que la Micheline ait arrêté dans son pays, la halte de Villers. Alors bon, nous causons pendant un bon moment. Très satisfait toujours de l'arrêt de la Micheline pour lui, qui est c'est très intéressant pour gagner Soimante ou Vernon. Mm-hmm. Alors bon, comme il était l'heure de sortir de l'écluse, nous sortons. Et le lendemain, à l'autre écluse, j'entends parler que le fameux chef éclusier s'était fait écraser par la Micheline dont il me parlait la veille.
Vous n'avez pas gagné, Roger, votre histoire pour en rêver. Bon, tant pis. À demain matin, espérons que nous n'aurons pas trop de brume. Roger ne croyait pas si bien dire. À 7h du matin, on n'y voit pas plus qu'à minuit. C'est une sorte d'obscurité, mais une obscurité blanche, si vous me permettez cette expression osée, une obscurité cotonneuse, fort désagréable. Mais c'est l'occasion pour nous de faire connaissance avec l'une des principales difficultés des mariniers. Nous avons d'abord appareillé, une éclaircie semblant amorcée, mais 10 minutes plus tard, une nouvelle masse venait à nous, nous cernait et nous obligeait à jeter l'ancre. Les bateaux, en amont et en aval, faisaient de même, et c'est ce singulier concert de sirènes qui nous réveillait vers 7h30 du matin. Enfin, à 11h, le diesel est mis en route et nous repartons. Hier, nous avons laissé Médan, la patrie de Zola. Aujourd'hui, nous traversons la Normandie et ses tendres beautés, ses prés, ses collines. Tous les 5 kilomètres, le paysage est différent. Vernon, Louviers, Pont de l'Arche, Elbeuf, ces usines pittoresques et d'époque qui déversent leurs eaux à quelques encablures de nous. Tout cela a bien souffert partout. Des ponts neufs, des chantiers, malheureusement aussi, des espaces déserts autrefois animés et habités. Enfin, c'est Amfreville, la dernière écluse. Amfreville est la colline des deux amants. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette colline. Pourquoi s'appelle-t-elle des deux amants? Eh bien, on raconte qu'au Moyen-Âge, la fille du châtelain, du haut de cette colline, était amoureuse d'un paysan. Le châtelain voyait ce mariage d'un fort mauvais œil. Aussi bien, dit-il à sa fille, eh bien voilà, si ton amoureux veut bien te monter sur son dos jusqu'au château, eh bien je te donnerai la permission de l'épouser. Le malheureux tenta bien de réaliser cet exploit. Il monta la jeune fille sur son dos jusqu'au château, mais lorsqu'il arriva dans la cour, il tomba mort. La jeune fille de désespoir mourut également, et c'est en souvenir de ces deux héros de l'amour qu'on a appelé la côte des deux amants. À Amfreville, des enfants sur une péniche qui attend son tour de passage jouent comme les vôtres au jardin public, mais sur le plat-bord du bateau, c'est-à-dire sur une largeur de quelques centimètres. Il y a heureusement peu d'accidents, mais gageons que ceux-ci feront d'excellents mariniers. Et nous voici enfin à Rouen, la grande cité normande.
«
Et nous profitons des quelques heures que nous avons à passer à Rouen pour interviewer M. Thorin, qui est le représentant de la compagnie dans cette ville et qui est également l'adjoint au maire. Nous n'avons pas de difficulté à lui demander quelques mots, car effectivement, il est venu, invité par le capitaine de l'ESCO, il est venu à bord et nous voici maintenant autour d'un bon verre d'avocat en train de discuter de choses et d'autres. Et je vais en profiter pour demander à M. Thorin de bien vouloir m'indiquer quel est l'état du port de Rouen à l'heure actuelle.
Je m'excuse pour la voix qui est un peu couverte. Je suis heureux de saluer ici le représentant de la Radiodiffusion Nationale à bord de l'ESCO, commandé par un vieil ami, le capitaine Cuisenga. En double titre, je représente ici les Pays-Bas comme vice-consul et également comme courtier maritime. Vous voulez savoir sur le port de Rouen, une question intéressante sans doute. Eh bien, notez que le port de Rouen est l'avant-port de Paris et que chaque jour, il y passe une quantité de navires venant soit d'Angleterre, mais plus spécialement des Pays-Bas, qui assurent un trafic constant à travers vents et marées. Et je dois dire que pour Paris, c'est un gros intérêt, aussi bien que pour nous, Rouennais, dans la mesure où nous pourrons aider les amis parisiens et concourir à la bonne marche et aux affaires de la France. Vous pouvez compter sur Rouen et en même temps sur l'armement Muller que je représente ici.
Et dites-moi, est-ce que le port a repris son trafic d'avant-guerre ?
Pratiquement, et si nous n'étions pas tributaires d'éléments dans lesquels nous ne pouvons rien, c'est-à-dire les grèves qui, hélas, ne sont pas spécialement réservées à la France, nous pouvons dire que nous avons retrouvé pratiquement le bon vieux tonnage d'avant-guerre.
Entre Rouen et Le Havre, nous aurons successivement deux pilotes. L'un qui viendra avec nous jusqu'à Villequier, station de pilotage de la Seine, et l'autre qui embarquera cette station. À Villequier, une vedette à Coste, à Tribord, et c'est l'échange. Puisque j'en ai l'occasion, je voudrais vous dire deux mots au sujet des pilotes et du pilotage métier par trop méconnu. Vous savez que de toute façon, on est obligé sur la Seine, de Paris au Havre, d'avoir un pilote à bord. Mais comme les frais de pilotage sont proportionnels au tonnage des navires, c'est le tour de service qui règle scrupuleusement l'embarquement des pilotes. C'est donc le sort qui attribue à l'un un caboteur de 500 tonneaux comme le nôtre et à l'autre un énorme pétrolier de 10 000 tonnes. Il en est par conséquent que la chance favorise, mais ils ne sont pas seuls à s'en réjouir car chaque pilote en activité partage ses gains avec son prédécesseur en retraite selon une proportion déterminée par les règlements. C'est ce qu'ils nomment « nourrir leurs vieux ». Cette coutume patriarcale ne donne lieu à aucune chicane, les vieux restent à Villequier, gardant presque toujours la maison qu'ils habitaient pendant leur temps d'activité. D'ailleurs, toutes ces maisons se ressemblent, elles sont propres, confortables et décorées d'un mât où les jours de fête, on hisse le pavillon. Par conséquent, le service s'organise ainsi. Les pilotes qui ont descendu un navire de Villequier au Havre attendent dans ce port un navire à remonter. Ceux qui ont monté un navire à Rouen attendent à Rouen un navire à descendre. Il y a donc deux groupes distincts de pilotes, l'un pour la section maritime au-dessous de Villequier jusqu'à la mer et l'autre pour la section fluviale de Villequier à Rouen. Le métier n'est pas une sinécure. Outre qu'il expose au danger, il exige une connaissance sans cesse entretenue du régime du fleuve, le chenal se déplaçant assez fréquemment. Des sondages sont faits par le service des ponts et chaussées et les résultats en sont communiqués au pilotage. Si vous avez une carte sous les yeux, vous pourrez vous apercevoir que les divers tracés du chenal à travers les bancs de l'estuaire depuis une quarantaine d'années ont changé. On est émerveillé par conséquent que ces bancs ne soient pas un cimetière de navires et l'on doit admirer la tâche accomplie par les pilotes. Je suis heureux de pouvoir le dire ici. Nous arrêtons une seconde à Villequier, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de faire un pèlerinage aux tombes des familles Hugo et Vacry. En effet, devant l'église de Villequier, 6 tombes, toutes pareilles, et du plus pur style romantique à la cathédrale, rappellent le drame du 4 septembre 1843, où le mascaret engloutit Léopoldine Vacry, fille de Victor Hugo, son mari Charles Vacry, Pierre Vacry âgé de 62 ans, et le petit Arthur Vacry, un enfant de 11 ans. Léopoldine et son mari faisaient avec Pierre et Arthur Vacry une promenade en canot. Ils avaient eu l'imprudence de prendre pour lest des pierres qui, à l'arrivée du flot, roulèrent et firent chavirer l'embarcation. Guillaume Apollinaire a laissé une description du cimetière. Il écrit « De gauche à droite, à la rangée la plus élevée, repose la mère d'Auguste Vacry, Marie-Anne, femme d'Armand Onésime Vacry et sa petite-fille Marguerite. Et les deux tombes de 1843 qui portent Charles Vacry, âgé de 26 ans, et Léopoldine Vacry, né Hugo, âgé de 19 ans, marié le 15 février et mort le 4 septembre 1843. Plus loin, on peut voir enfin la tombe de Madame Victor Hugo, ornée d'un rosier rouge et cette inscription d'une concision grandiose, Adèle, femme de Victor Hugo. Nous quittons Argré-Villequier et nous nous approchons de Côte-Bec où nous pouvons admirer au passage, et quand je dis admirer, c'est une erreur de ma part car ce monument est bien laid,
C'est le monument qui a été dressé en l'honneur du LATAM 47 qui, en 1926, alla à la recherche de Nobile. Vous vous souvenez sans doute de l'accident qu'eut Nobile avec son dirigeable alors qu'il était au pôle Nord pour découvrir de nouvelles terres. Le LATAM 47 parti de Caudebec, ayant à son bord Guilbeault, de Cuverville et Amundsen. L'hydravion ne revint jamais, tandis que Nobile, lui, revint sans son compagnon, et on a même dit à cette époque-là qu'il l'avait mangé. Mais la chose n'a jamais été confirmée. En tout cas, il y a là maintenant, presque à l'estuaire de la Seine, un monument qui ne fait pas honneur à la ville de Caudebec, s'y représente un hydravion qui semble vouloir s'élancer vers le large. On arrive enfin à l'estuaire, nous laissons notre pilote, et c'est la mer. Et voilà, en mer, fini les incidents de la circulation qui existent sur les rivières, aussi bien que sur les routes.
Alors quand on a un gros moteur comme le tien, on sort plus vite de l'écluse. T'as qu'à venir l'emmener, mon bateau. Ben, je ferai mieux que toi, etc., etc.
Tout cela, c'est fini. Toutes les 3 ou 4 heures à peine, à la jumelle, peut-on apercevoir, à quelques milles, la fumée d'un transporteur ou un chalutier en quête de pêche miraculeuse. Ne croyez pas, d'autre part, que nous longeons la côte, non. Immédiatement après avoir quitté le Havre, alors qu'un Liberty Ship prend la route de New York vers l'ouest, à quelques encablures de nous, nous virons et remontons vers le nord pour aller en vue des côtes sud-est de l'Angleterre. Et de là, nous coupons pour mettre le cap directement sur la Hollande. C'est le chenal de sécurité, complètement déminé, alors que certains passages sont encore dangereusement abordables. La mer du Nord est d'huile, la nuit idéale, et le matin, c'est un soleil de Méditerranée qui nous réveille. Le capitaine Kasenga, debout sur la dunette, cherche la bouée 19. La casquette en visière pour se protéger des rayons du soleil, il inspecte la mer. Bon, je pense que la boussole et le compas ne nous auront pas trompés. Et effectivement, c'est la bouée 21 que nous voyons apparaître une heure plus tard. Peu importe, nous sommes sur la route. Et de sa phrase traditionnelle, encore un petit verre, messieurs. Le père Kasenga nous convie à déguster le Genièvre dans sa cabine. La radio diffuse un concert de la BBC, gauche tourne le bouton. Et c'est avec plaisir que nous entendons, si loin de Paris, à quelques heures de Rotterdam, que nous allons aborder bientôt, un programme que vous connaissez bien et des voix sympathiques.
Eh bien, après les admirateurs de Jean Lumière, nous allons essayer de donner satisfaction à ceux d'Yvette Giraud. Vous avez quelques lettres, là?
Oui, mais j'en ai beaucoup, même. Pour Simone Rivet, avenue Maurice Berthois, se vend de la part de son mari.
Pour Madame Chartier, de la part de Georges.
Pour Olga Bouquet, 104 rue Oberkamp.
Pour Jeanine.
Également de la part de son mari. Ah, il faut me le laisser
dire. Pour Jeanine, de la part de Jacques.
À l'intention de Madame Boudot, à Saint-Georges-de-Rex, de Sèvres, de la part de ses petits-enfants à Paris.
Pour Madame Soulier, de la part de Didier, c'est ça, oui.
Pour Mesdemoiselles André et Lucienne Le Sens, de la part de leur beau-frère Pierre.
Également pour les deux Simone de Dijon, de la part des deux Jacques de Paris, en souvenir d'un camping sur la Côte d'Azur.
De la part d'Eddie, pour ses amis Lydia et Jacques, 130 boulevard Jean Jaurès à Clichy.
Pour Monsieur Patrick...
Patrick, ah, quand vous dites Patrick, je pense tout de suite à Patrick Saint-Maurice.
Ah oui, on est tenté de le faire. Mais voyons, il ne s'agit pas de Patrick Saint-Maurice, mais de Patrick Escudier, oui, de la part d'une admiratrice. Je dois dire, pour nos auditeurs, qu'il s'agit d'un jeune Patrick âgé de 3 semaines. Si lui n'est pas très sensible aux compliments, ses parents doivent être ravis.
De la part de Claire, pour sa maman Madame Leblanc, 14 rue de Naples.
Et pour les familles Cardinal et Astre, à Lezoux, en Auvergne, de la part de Jean et Alphonse, leur fils à Paris. Voici donc...
Captain Cap, par Yves Giraud.
Sa casquette de corsaire, debout sur le gaillard d'avant, s'il mène sus à l'adversaire, son équipage à tous les vents. Captain Cap est un fameux bonhomme, le plus dur de tous les boucaniers. Captain Cap est brave, il pourra comme il tue ses ennemis jusqu'au dernier. Captain Cap, à bord de son navire, n'admet pas qu'on vienne à lui manquer. Filez droit, cap au vent, tournez vire, sinon vous êtes vite débarqué. Mais lorsque le vent le pousse à jeter l'ancre chez moi, il devient plus doux qu'un mousse, embarrassé de ses dix doigts.
Fenka, retient toute avareuse, un cœur d'or qui ne bat que pour moi. Captain Cap me rend la plus heureuse. Malheur à celle qui me le prendra. Et là s'en sonne l'abordage. Il court parfois quelques dangers. Je l'ai surpris ce soir en nage et dans la baignoire à patauger. Captain Cap, mais je vous vois sourire, ce n'est pas qui vous imaginiez. Captain Cap, j'aurais dû vous le dire, vient d'avoir ses 4 ans le mois dernier. Captain Cap, c'est mon petit bonhomme, il se tient à peine sur ses pieds. Captain Cap est grand comme 3 pommes, si son fameux navire est en papier.
Merci Claude Herval et Alain Roland pour votre à propos involontaire. Nous n'avons pas d'intention aussi belliqueuse que le capitaine Cap, car effectivement nous voici en Hollande. Pendant que vous nous parliez, nous avons aperçu la première terre basse et grise, le bateau feu, le bateau pilote et l'acheté sur laquelle nous avons pu voir les premiers vélos. 2 heures de navigation arrivée après avoir embarqué un pilote hollandais. Polyglotte celui-là, je le suis un peu moins, mais nous sommes tout de même expliqués un petit peu en anglais. Alors il m'a dit... Vous êtes parisien? J'ai dit oui, monsieur. Ah, il m'a dit c'est beau, Paris, monsieur, c'est beau, vous savez. Je suis allé une fois et alors j'ai vu les Folies Bergères et puis aussi Notre-Dame et le Louvre. C'était un pilote éclectique et vous voyez comme notre beau pays est connu dans ses moindres détails. Nous sommes donc arrivés à Rotterdam après avoir eu le temps d'admirer un moulin posé là comme pour les touristes, des maisons nettes aux fenêtres fleuries et nous sommes reçus par monsieur Bensing, directeur de la compagnie Mullet.
Monsieur. Il me fait un grand plaisir de vous voir ici, chez nous, à Rotterdam, et je suis sûr que je parle aussi au nom de mes collègues quand je vous remercie d'avoir pris le temps et la peine de vous convaincre personnellement de ce que veut dire une ligne maritime et directe sur Paris. J'espère que ce voyage vous aura donné grande satisfaction et que votre séjour à bord de notre moteur Esco et votre visite au port hollandais restera longtemps un souvenir aussi agréable qu'instructif. Je sais par expérience que pour la majorité des gens, c'est encore un secret qu'on peut monter la Seine en bateau de mer jusqu'au cœur de Paris. Alors je dis, eh bien monsieur, vous ne savez donc pas que Paris est un port de mer? Mais oui, un port de mer qui est relié directement au grand port européen de Rotterdam, d'Amsterdam, d'Anvers, de Londres et de Manchester. Et par conséquent, indirectement, par transbordement au monde entier. C'était en 1926 que la maison Müller a pris l'initiative d'ouvrir une ligne régulière et directe de Rotterdam et d'Amsterdam sur Paris par de petits moteurs. C'était un bateau d'environ 200 tonnes et d'une vitesse d'à peine 7 nœuds. Mais ce fut un succès. Et bientôt aussi la port d'Anvers et de Londres furent incorporés dans notre système de lignes régulières, dont la dernière extension fut l'inauguration d'un service Paris-Manchester. Pour l'armateur, l'exploitation de sa ligne, partiellement en haute mer et partiellement sur la rivière, est une rivière difficile comme la Seine avec toutes ses écluses et ponts, n'est pas une chose facile. Mais grâce à l'expérience et la grande qualité marine de nos capitaines, de nos officiers et nos équipages, et n'oubliez pas, grâce aussi au grand dévouement et l'habileté des pilotes français, ce petit corps de navigateurs sublime qui conduisent les bateaux de Rouen à Paris et retour, ça marche. Et le fait que vous avez fait votre voyage en 1948 à bord d'un bateau moteur de 550 ans et d'une vitesse de 11 nœuds, vous aura donné la preuve qu'il y a des possibilités. Il y a 2 années, M. Guédon, l'ingénieur en chef du port de Paris, m'a fait le plaisir d'une visite à Rotterdam et il m'a parlé avec grand enthousiasme de ses projets de genevier. Quand un jour les établissements portuaires seront construits, quand la Seine sera draguée et quand les ponts seront reconstruits à un plus haut tirant d'air, quand ce jour sera arrivé, monsieur, Paris sera un vrai port de mer, accessible à des bateaux de 800 tons et plus. Imaginez-vous, par exemple, les primeurs et les agrumes du Maroc déchargés directement au centre de la métropole. Mais il ne s'agit pas seulement des importations. N'oublions pas l'exportation des produits industriels et agricoles de la France. Je connais la France un peu et j'espère avoir encore la chance de la connaître mieux. Mais j'ai toujours été frappé par la beauté et la richesse incomparable de votre pays.
C'est à l'étranger souvent qu'on se rend compte que la France, malgré ses ennuis et ses crises, garde son prestige et ses amis. Merci, Monsieur Bensing, et si vous le permettez maintenant, nous allons faire une petite visite à votre ville. Au coin d'Abroadkerque, un limonaire, première impression auditive d'un caractère désuet et charmant. Le long du canal, un vieil homme dispense sa musique avec bonhomie. La façade de son appareil est artistiquement décorée de clowns bariolés, de cymbales, de trompettes, le tout en relief. Pas ceci ne saurait faire oublier les désastres de la guerre. Voici maintenant la ville qui a brûlé en 1940 lors de l'attaque allemande. Des quartiers rasés, de vastes terre-pleins sur lesquels pousse une herbe rachitique, voici des pans de murs déchiquetés, mais c'est aussi une ville qui renaît. Des échafaudages, des immeubles neufs aux larges baies, des bâtisses carrées d'un style moderne, souvent sans grâce, mais confortable, et surtout un port actif dont les bassins de radoux, les wharves et les docks sont tous en état. Hélas, ça n'est plus le temps tout de même qu'a connu ici Mac Orlan.
J'ai entrevu Rotterdam en 1906. Mais ce n'était pas ce jour-là la première vision qui est la plus nutritive de ces ports du Nord dont je ne veux parler sans un sentiment très sincère de reconnaissance. Le peu que je sais, je l'ai puisé dans le rayonnement sentimental de cette mer du Nord et dans le bas pays où les Bélandres dominent les champs de tulipes, les saualais et les pyramides de fromage. L'odeur de ces ports demeure dans ma mémoire. Tout cela dans un paysage marin d'un gris très délicat où les couleurs vives, les oranges, les jaunes, les verts clairs, prennent un éclat particulier. Les matelots eux-mêmes adaptaient leur apparence physique à des disciplines souvent bruyantes qui pouvaient évoquer les belles nuits des équipages des Indes orientales. Il est difficile d'expliquer pourquoi des couleurs et des noms de rues parviennent à influencer une œuvre littéraire. Ces éléments mystérieusement associés créent une sorte de chanson, une chanson populaire puissante dont l'usage est strictement limité. Ces grandes villes au bord de la mer du Nord, grises et violettes, ornées dans les grands jours d'une frange d'écume jaune, je les ai toujours senties derrière moi. leur présence est chaude. L'humanité qui les peuplait, que j'aimais et que j'aime encore, n'était pas de celles qui puissent servir de thème à une causerie radiophonique. Les plus belles fleurs de ce monde poussaient dans l'ombre. Quand j'ai revu Amsterdam et Rotterdam, quelques années plus tard, la lumière éclatante des lampes à arc avait renforcé la pesanteur et le mystère de l'ombre des rues. Plus la lumière est grande, plus l'ombre est épaisse, et mieux ses habitants se dérobent devant les regards les plus indulgents.
Et puisqu'on nous laisse un peu la bride sur le cou, nous nous écartons de notre itinéraire et nous empruntons l'autostrade qui relie Rotterdam à La Haye, Amsterdam, et nous arrivons dans cette ville. Immédiatement, nous nous rendons à la cathédrale de style flamand, qui n'a pas été touchée du fait de la guerre. Il faut dire d'ailleurs qu'Amsterdam a peu souffert des hostilités, et nous demandons au carillonneur, pourquoi pas, de faire un concert de cloche pour nous. Vous allez pouvoir l'entendre, il peut rivaliser avec n'importe quel concert de cloche de Belgique ou de France. Petit arrêt à La Haye. Nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'au palais de la paix, ni de voir celui de la princesse reine maintenant, qui a été détruit l'an dernier par un incendie et qui est heureusement reconstruit. Et nous nous apercevons qu'à La Haye, on joue un film français, Pour une nuit d'amour, avec Allerme et Odette Joyeux. Nous n'avons pas le temps, malheureusement, d'aller nous rendre compte si les artistes parlent hollandais, s'ils ont été doublés. Et nous nous arrêtons devant le grand théâtre de la ville. Celui-ci affiche un programme de danse folklorique et un concert de musique folklorique également. Nous pénétrons à l'intérieur de la salle. Celle-ci ressemble un peu à Pleyel, un peu moins grande que Pleyel, mais tout aussi moderne. Vous allez pouvoir entendre le concert que nous y avons nous-mêmes entendu et qui est, je crois, fort intéressant. Mon intention n'est pas de vous faire écouter de la grande musique, par conséquent, rentrons en vitesse à Rotterdam et pénétrons dans le bistrot du port. En fait, ça n'est pas dans le bistrot du port que je vous convie à boire un verre, mais plutôt dans une brasserie. Les vrais cafés ont été détruits avec les ports, avec le port au début de la guerre, et nous allons dans une brasserie dans laquelle joue un orchestre musette avec un chanteur que vous pouvez entendre. Il y a là des dockers, quelques marins et énormément de panneaux publicitaires pour des marques de bière.
Mijn grootvaders klok was een deftige klok, met haar uurwerk zo goed en secuur. Zij liep zo geregeld al 90 jaar, verkondde haar stem steeds het uur. En met vrolijke slag riep de klok reeds goedendag, als een gast in ons kleine huis verscheen. Maar opeens, toen, was het met haar gedaan, en voorgoed is ze stil blijven staan. En zij tikte maar altijd door, tikketak, tikketak, altijd maar dag en nacht, tikketak, tikketak. Opeens, toen, was het met haar gedaan, en voorgoed is ze stil blijven staan. Als kind reeds had grootvader menige keer aan de klok zijn geheimen verteld. Haar slinger steeds volgend al heen en alweer, werd het lied en het leed haar vermeld. Rustig tikte zij voort, door geen enkel ding gestoord, deed zij 90 jaren lang haar plicht. Maar opeens, toen, was het met haar gedaan, en voorgoed is ze stil blijven staan. En zij tikte maar altijd...
C'est la fin de notre séjour en Hollande. Nous prenons le Batavir à 8h. À 20h plus exactement à Rotterdam, nous sommes le lendemain matin à 7h à Londres. Voyage sans histoire à bord d'un bateau confortable. Lorsque nous arrivons à Londres, les douaniers refusent que nous débarquions notre matériel. Ils ont peur que nous le vendions en Angleterre. Nous avons beau leur expliquer que si nous vendons notre matériel portatif, la radiodiffusion française va nous faire mettre les menottes lorsque nous rentrerons à Paris. Rien n'y fait. Nous serons donc obligés de travailler avec la BBC pour faire une visite qui va commencer immédiatement, une visite au vieux port de Londres qui a survécu malgré les bombardements.
I would say such wonderful things to you.
Nous voici au Charles Brown dans l'East End, au fin fond de Whitechapel. Pour y parvenir, une rue sale, embrumée, au coin de la rue, un policeman britannique comme vous les connaissez bien. Nous pénétrons à l'intérieur de ce café qui ne recèle, si je puis dire, que des femmes dont le métier est de faire oublier aux marins que la pêche à la baleine est un métier d'enfer, et puis des matelots et des dockers. À peine étions-nous arrivés, 5 minutes après notre arrivée, une de ces femmes projette violemment une pinte de bière à la face d'une de ses collègues. Drame passionnel, sombre histoire d'amour, fantaisie de femme ivre. Personne ne peut le dire. Toujours est-il que M. Skipper, le directeur de Muller-Londres, qui nous accompagne, du haut de ses 2 mètres, règle rapidement la situation. Le technicien de la BBC, qui est musicien à 16 heures, se met au piano et nous pouvons enregistrer ce morceau unique que vous entendez en même temps que nous. On ne se voit pas à 50 cm tant la fumée est épaisse, la bière coule à flot et un gros chien qui fait presque 1m10 de haut règle toutes les questions litigieuses entre les marins et les femmes. C'est lui qui fait la police. Pierre McCorland connaît bien Charles Brown. Je lui demande de nous dire un mot en général sur les pubs de Londres.
Je ne savais pas que ce bar, à qui son patron avait conféré une personnalité authentique, existait encore. C'est en compagnie d'un sergent du poste de police de Whitechapel que je fis connaissance avec Charlie Brown et avec ce qui restait de l'étonnante boutique de fauves d'occasion fondée par M. Hamlin, propriétaire du Jamrax. Le Jamrax se situait également dans Poplar, non loin du bar de Charlie. Je n'ai jamais retrouvé ces deux établissements, ni à Anvers, ni à Rotterdam, ni à Brest, ni à Marseille, ni à Barcelone, ni à Palerme, ni etc., etc., des ports que j'ai connus. Je me suis souvent promené dans les West India Docks, les Tilbury Docks qui abritaient les plus grands steamers du monde. Stevenson, Marcel Schwab me conduisaient par la main. Mais c'est André Savignon qui me donna l'impression la plus nette des quartiers populaires dont les rues accèdent au port de Londres. J'ai bien des fois rencontré Elsie, petite Anglaise, assez pure, un peu enfantine. Elle portait une pinte de bière à son père. Elle la tenait devant soi comme une lanterne, tout en marchant avec précaution. C'était au coin de Sainte-Catherine Way. Et aujourd'hui encore, cette Elsie vient d'allumer la lampe qui permet au film de se dérouler. Mais encore une fois, la destruction est passée sur mes souvenirs avec un tel acharnement que je me demande ce que je fais ici en essayant de les faire revivre afin de mieux me persuader de leur anéantissement définitif.
And to one barefoot gossip at the play, for the wind that blows across the sea to island gathered perfume in the ever as they blow, and the women in the upland begin praising, speak a language that the English do not know. For the English came to try to teach us their way. They blame us.
Le Charles Brown n'est pas le seul bistrot dans son genre. Il en existe beaucoup d'autres à Londres, et notamment un qui a une vieille histoire, c'est le Dirty Dick. Le Dirty Dick, c'est une vieille maison qui date de 1650 à peu près, et qui avait été rachetée par un ancien Lord Maire de Londres devenu fou. La folie de ce bonhomme était de faire mourir les chats de faim. Alors dans le Dirty Dick, à l'heure actuelle encore, en 1948, lorsqu'on pénètre à l'intérieur, la première vision, c'est une quantité de chats desséchés, morts, qui pendent au plafond, qui sont accrochés au mur. Il y en a des centaines et des centaines. Les femmes qui sont un peu sensibles ne doivent pas pénétrer dans ce café sous peine de s'évanouir, ou tout au moins de se trouver très très mal et d'être obligées de s'en aller immédiatement. D'ailleurs, dans un autre café de Londres, le dessinateur Senep, que vous connaissez bien, a eu une petite histoire. Il s'agissait d'un restaurant chinois où il était venu déjeuner avec notre ami de second Zach, que vous connaissez également. J'ai demandé à Senep de venir nous rappeler un de ses souvenirs. Écoutez-le.
Voilà, c'est très simple. J'avais été envoyé par un journal du soir à Londres pour faire un reportage sur le couronnement. Et j'y avais rencontré, en effet, notre ami second Zach. Il m'avait été emmené un soir dans un restaurant chinois. Et vous savez, un restaurant, c'est tout à fait curieux, parce qu'on serait cru absolument à Pékin, enfin au moins d'après les descriptions qu'en donnent
les romanciers, les journalistes,
c'est ça.
Même ça, ils exagèrent souvent.
Oui, ça c'est sûrement. Mais enfin, moi je ne suis jamais allé en Chine, mais j'avais été frappé parce qu'il y avait là-bas, enfin, vous savez, des lanternes de couleur, des banderoles, etc. Nous avons été dans un restaurant chinois, c'est une assez grande bâtisse, remplie de Chinois. Et tout en dînant, j'avais pris des croquis. J'étais assis en face de ce Gonzac, et tout d'un coup, il me dit « Surtout, ne vous retournez pas, ne bougez pas. » Je ne comprenais pas du tout ce qu'il y avait, et je lisais dans ses yeux qu'il avait une certaine inquiétude. Et puis, le bistrot est arrivé, il a pris mon carnet, et j'entendais derrière moi des gens qui se mettaient à crier. Au bout de quelques temps, ce Gonzac continue à me dire « Surtout, ne bougez pas, ne dites rien, mais surtout, ne faites pas un geste. » Et au bout de quelques temps, je vois entrer deux policemen géants qui nous ont escortés jusqu'à la sortie. Et c'est alors que j'ai appris ce qui s'était passé. Des Chinois qui n'aiment pas beaucoup, enfin ces Chinois-là du moins, qui n'aiment pas beaucoup, paraît-il, qu'on fasse leur tête, s'était avancé derrière moi. L'un d'eux avait tiré un couteau formidable qui voulait me planter dans le dos. Simple histoire, qui n'a rien de tragique d'ailleurs, puisque ça s'est très bien terminé, mais qui prouve que le métier de dessinateur et de reporter caricaturiste n'est pas toujours de tout repos.
Ce qui vous a incité à ne plus jamais vous payer la tête des Chinois.
Peut-être, oui.
Your daughter.
Away, your rolling river.
Oh, Shenandoah, I want your daughter.
Away, I must away.
Pour ne pas vous laisser sur une audition au Charles Brown et sur des histoires de brigands, voici l'une des plus vieilles complaintes que chantent les matelots britanniques.
The Indian maiden.
Away, your rolling river.
His canoe with dollars laden.
Away, I come away. What the wind is blowing.
The chief disdained the trader's daughter.
Away.
You shall never follow.
Away, I must away. What's the wine is glory.
Enfin, un chant choral également traditionnel, She Shantays and Forbidders.
In the sailor's train, I'll go no more a-roving with you, fair maid.
A roving since roving sweet my ruling. I'll go no more a roving with you, fair maid.
I took this maiden for a walk,
not well what I do say.
I took this maiden for a walk, she wanted some gin and didn't she talk. I'll go no more a roving with you, fair maid.
A roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a roving with you, fair maid.
She said, you said I love you so.
Mark well what I will say.
All you said I love you so, and the reason why I soon did know. I'll go no more.
Le voyage est terminé. Si vous avez participé à notre périple, je suis bien ennuyé pour vous ramener à Paris, car je n'ai pas le temps. Imaginez donc un procédé ultra rapide, mieux que l'avion à réaction. Les formalités de douane en matière de souvenirs seront en tout cas vite accomplies. Il n'y a pas de droit sur les pensées et sur les souvenirs. Londres, Paris, chez vous, tout va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Vous avez été des voyageurs accommodants et compréhensifs si je ne fus pas un guide idéal. Merci et à bientôt.
Then we hoisted up our anchor and set our jib and spanker, and the pilot took us to the harbor's mouth. Then from the tug we parted and on our voyage started, with a compass heading east, nor west, we south.
As the wind began to blow, as the ship began to roll,
vous avez entendu Les Quais des Brumes du port de Paris, âme et de Londres, une émission de Maurice Sévenot avec Pierre Macorlan et Sénèque.
C'était Les Quais des Brumes, du port de Paris à ceux de Rotterdam et de Londres, par Maurice Sévenot. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 15 décembre 1948. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.